pas de publi sur Mastodon, nous rencontrons des difficultés techniques liées à une panne dans notre data center qui a affecté plusieurs machines. Nous investiguons et reviendrons vers vous dès que possible. Le service très utilisé de PAD en ligne ne fonctionne plus. La source identifiée quelques heures plus tard, un service de refroidissement par eau défectueux. Ce genre d'annonce, qui est arrivé à nos oreilles grâce à un certain Institute of Diagram Study que l'on remercie au passage, est en somme toute assez fréquent au sein de ces infrastructures immenses de données que sont les data centers, qui semblent être assez loin de l'idée qu'on pourrait s'en faire des mastodontes ultra sécurisés, indestructibles, qui ne tombent jamais en panne. Au cours de ces deux émissions, nous vous proposons de comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière ces bâtiments étonnants. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission très hebdomadaire de Picasoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous écoutez actuellement Radio Graphite 94.9 et vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.picasoft.net. Alors cette semaine, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Baptiste.
Romain, bonjour Romain.
Salut.
Et avec Guillaume Cardino. Bonjour Guillaume
bonjour.
Cardino.
Bonjour.
Et nous allons parler de mythologie des data centers. Donc Guillaume Cardino, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Costec à l'Université de Technologie de Compiègne. Vous enseignez l'histoire des sciences et les technologies. Et vous avez travaillé en compagnie de Clément Marquet sur les data centers. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté ce deuxième entretien à propos des data centers. Et avant de continuer, on va proposer à nos auditeurs un petit récapitulatif de tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et n'hésitez pas à m'interrompre si je dis des bêtises. Donc on avait commencé par parler histoire des data centers en identifiant trois grandes origines des data centers modernes. Donc d'abord les calculatrices, c'est en garde de calculs mécaniques immenses où travaillaient souvent des femmes noires pour des raisons de coût, pour des administrations notamment. Puis on avait vu que l'introduction de l'électronique dans le calcul introduisait des changements d'échelle et de développement d'architecture informatique. Et enfin une troisième vague dans le développement qui introduit le développement des data centers, c'est le développement des clouds, donc la possibilité pour n'importe qui de louer pour divers services des machines d'autres personnes. Et on avait vu que ces évolutions, elles créent à chaque fois des ruptures liées à la massification de l'activité. On ne fait fondamentalement pas la même chose dans un data center des régions parisiennes de 2010 que dans une salle de serveur bondée à craquer dans une université dans les années 90. Il y a une différence d'activité qu'on avait mis en évidence. On avait également vu que les data centers recouvraient une grande variété d'édifices dans des lieux souvent en périphérie de grandes villes pour être ni trop proches ni trop loin des villes qui cherchent à approvisionner. Cette diversité, elle vise toujours le même but, mais à des degrés divers, donc des stabilités d'alimentation, des stabilités de température, de la protection contre des risques naturels, contre des intrusions, et bien sûr une connectivité stable à des machines qui vont être placées dans les data centers et qui vont contenir des données et de la puissance de calcul. On avait également vu que pour assurer tout ça, la solution, c'était la redondance et un travail humain très segmenté, qui passent leur temps à gérer des pannes de refroidissement, des pannes de matériel qui s'abîment, des pluies dans des bâtiments, etc., etc. Et que même si les pannes techniques sont légion, le discours actuel, c'est que le problème majeur des data centers, c'est cet indice sociologique qui est assez inconnu des sociologues, le PFH, le putain de facteur humain, cette idée que les pannes des data centers viendraient de problèmes humains. Et enfin, on avait parlé un peu d'environnement, c'était intéressé au fameux PUE, le Power Usage Effectiveness, et on avait vu que c'était une forme de verdissement de l'industrie des data centers qui était censée relater l'efficacité énergétique d'un data center en n'utilisant que des valeurs relatives et qui ne s'intéressait que à la partie exploitation du data center, que à son cycle de vie où il produit, mais il a également une phase de production qu'il faut questionner. Avant de parler de tout ça, on vous propose un billet proposé par Romain sur le protocole Gemini. Je t'en prie, Romain.
Alors, pour ce premier billet dans La Voix est libre, j'ai fait un billet qui est intitulé « Gemini, une alternative au web pour partager de l'information ». Point d'interrogation, c'est une question. L'idée de ce billet m'est venue à la lecture d'un article sur le blog de Stéphane Brotzmeier, donc le lien sera dans le billet accompagnant l'émission. Et du coup, Gemini, c'est quoi? C'est un protocole qui est encore en cours d'élaboration, donc qui est assez jeune, et qui se veut être une alternative au web que nous connaissons, pas un remplacement, mais une alternative. Donc déjà, le web, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que le web, ce n'est pas Internet. C'est seulement une utilisation possible du réseau Internet et il y en a plein d'autres. Des protocoles de discussion instantanée, des protocoles d'échange de fichiers, des protocoles pour plein de choses. Le web, il s'appuie sur un protocole client-serveur qui permet d'échanger de l'information et des documents. Vous voyez souvent le nom de ce protocole quand vous êtes sur un navigateur. Dans la barre d'URL, c'est le fameux HTTP ou HTTPS qui est devant l'URL. Un protocole, ce sont des règles qui vont permettre de se mettre d'accord sur la façon de communiquer. Et on a dit que ce protocole était client-serveur en contradiction avec pair-à-pair, c'est-à-dire qu'il y a une machine, le client, qui va demander à une autre machine, le serveur, un document, et le serveur va lui donner, s'il le peut, et en général, c'est pas l'inverse. Le web ne va pas sans le fameux format de fichier qu'on connaît, le HTML, même si d'autres fichiers fonctionnent aussi sur le web, c'est vraiment celui-là qui est majoritaire, et il permet de décrire de l'information, donc ce qui va être donné sur le web, et donne ainsi la possibilité de faire des listes, des titres, de placer des images, des liens, des citations, etc., etc. Des vidéos, des musiques, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on voit sur le web. Ce qui a permis la grande et rapide popularité du web, c'est le fait de pouvoir naviguer entre les différents endroits, les différentes pages, les différents lieux, de lien en lien. Donc c'est l'hypertexte, et c'est ce qu'on appelle le fait de surfer sur le web. Il y a déjà des protocoles alternatifs au web qui gardent cette caractéristique, donc cette caractéristique d'hypertexte, de lien pour surfer, et Gemini va reprendre également cette spécificité. Donc on a parlé un peu là d'alternatives au web, il y a déjà des alternatives qui existent au web pour le côté hypertexte, donc la navigation de lien en lien. Et Gopher, dans tout cela, est de loin le plus connu, à tel point qu'il est surnommé le monde parallèle au web. Pour s'y connecter, il va vous falloir un client spécifique, au même titre que sur le web. Il y a les fameux clients web qui sont les navigateurs, donc Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Et quand on est sur une page de Gopher, ce qu'on remarque directement, quand on est habitué au web, c'est la simplicité par rapport aux pages web. Il y a beaucoup moins de distractions, de publicités ciblées, de pop-up indiquant des cookies, tout ça. Ben, il n'y en a pas en fait. On est vraiment sur une page qui est du texte avec des listes, des liens, etc. C'est fait pour aller directement à l'essentiel. Et donc Gemini là-dedans, vous allez me dire que le web ça fonctionne déjà très bien, qu'il y a déjà des alternatives. Alors pourquoi se fatiguer en créer des nouvelles? Alors déjà, c'est bien de se lancer dans de nouvelles aventures qui peuvent fonctionner ou non par ailleurs. Et c'est ça l'innovation. Gemini, lui, il vient régler plusieurs problèmes rencontrés avec le web et les alternatives déjà existantes. Du moins, c'est son but. Selon les auteurs du protocole, Gemini, le web, c'est un projet qui est devenu gros et complexe. Et qui permet de traquer les utilisateurs, et ça, c'est pas très cool. Même si au départ c'était quelque chose de simple et super, ça s'est un peu éloigné de son but selon eux. Et aujourd'hui, les clients web, ce sont devenus des projets qui sont titanesques, c'est vraiment des très gros projets. C'est difficile pour des petits projets de voir le jour. Déjà, c'est pas possible de maintenir un navigateur tout seul. Et du coup, tout ça, ça réduit un peu le choix, la concurrence, etc. pour l'utilisateur. Et du coup, c'est quelque chose contre lequel veulent lutter les inventeurs de Gemini. Il faut savoir que, selon eux, pour leur protocole, écrire un serveur ou un client, c'est vraiment très rapide. On peut faire ça en une ou deux après-midi seulement. Et du coup, c'est le jour et la nuit à ce niveau-là. De la même manière, des alternatives comme Gopher ne sont pas adaptées selon les auteurs, car c'est pas assez pratique et c'est pas adapté aux besoins actuels. Donc pour pallier à ce problème, Gemini va implémenter un nouveau protocole, donc des règles de communication, et un nouveau format de fichier adapté à leur vision du protocole. Et du coup, les principaux axes de Gemini pour pallier au problème de l'existant, ça va être de faire des requêtes déjà qui seront simples, qui consiste seulement en une URL, on passe au serveur une URL seulement, Et du coup, ben, c'est censé compliquer le tracking parce qu'il n'y a pas d'informations cachées, tout ça. Des requêtes simples également, des réponses, pardon, simples également, du coup sans éléments superflus, seulement le contenu affiché, pas de tracker caché dans les scripts, dans les entêtes, des clients qui sont relativement faciles à implémenter, etc. Aux réponses simples. Donc on l'a dit, normalement un client, ça peut être implémenté en une ou deux après-midi selon les auteurs du protocole. Il y a aussi un chiffrement des échanges qui est obligatoire via TLS, donc le Transport Security Layer, qui est déjà présent dans des protocoles comme HTTPS, donc des protocoles bien connus. Cependant, sur un autre principe, le principe du TOFU, donc Trust and First Use, qui selon les auteurs serait mieux. Donc ça reste à voir avec le temps. J'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal quand même de désaccords dans la communauté. Donc ce sera à voir. Un protocole qui est simple et difficilement extensible pour éviter que ça ne devienne un gros machin. Donc encore une fois, selon eux, le web c'était une bonne idée à la base. Et puis bon bah c'est vite devenu complexe parce que notamment selon eux, c'est quelque chose qui a été extensible et du coup ben ça a grossi un peu n'importe comment. Encore une fois, dans ce protocole, une connexion ça consiste en une simple requête et une réponse simple. Et ensuite, bah, la connexion entre le client et le serveur ne perdure pas, en fait. Elle a lieu une fois seulement et puis elle est arrêtée tout de suite. Une fois que la réponse est arrivée. Donc ça évite encore une fois certains trackings. Toutes les informations en plus passent dans l'URL, donc en paramètres de l'URL. Donc nous, quand on regarde l'URL qui est passée au serveur, on voit directement ce que le serveur lui voit. Donc c'est facile de détecter si jamais il y avait des choses un peu suspicieuses dans l'URL. Alors le but, ce n'est ni de remplacer le web, ni les autres alternatives. Les auteurs du protocole sont très clairs dessus, ça ne les remplacera pas. Mais c'est juste de proposer un moyen alternatif de communication, donc un moyen alternatif au web et aux autres protocoles comme Gopher, et de présenter une nouvelle vision des choses. Du coup, moi je pense que ce protocole, ben, il ne reste plus qu'à lui laisser sa chance et voir si ça prend et si les problèmes sont réglés avec les solutions qui sont apportées. Si vous souhaitez tester Gemini, ben, vous pouvez d'ores et déjà télécharger un client, des clients qui sont déjà disponibles. Des clients, il existe Amphora qui est en ligne de commande ou Castor qui est dans une interface graphique. Et il faut savoir aussi qu'il existe déjà du contenu, donc on peut déjà tester, voir des choses réelles. Notamment, il y a des blogs qui sont sous format Gemini. Et il existe des tutoriels aussi disponibles sur le réseau Gemini. Il y a aussi des premiers portails, des premiers moteurs de recherche. Donc, il y a vraiment déjà des outils qui peuvent faire qu'on peut tester quelque chose de réel.
De retour dans La Voie est libre, on est donc aujourd'hui dans une seconde émission sur les data centers et je suis donc avec Baptiste et toujours Guillaume Carnino. Guillaume Carnino, que l'on vous a présenté en début d'émission, mais pour petit rappel, donc Guillaume, qui est enseignant-chercheur à l'UTC, historien spécialisé dans l'histoire des techniques, et on va poursuivre cette émission en abordant donc. En se focalisant sur les mythes associés au data center et puis peut-être à ouvrir ensuite d'autres perspectives, d'autres alternatives au data center qui existent, on ne sait pas, on va voir. Mais donc, suite au petit récapitulatif que tu as fait, Baptiste, merci pour la première émission. On peut peut-être aborder d'autres questions, essayer de poursuivre, notamment sur eh bien, la question de. La concentration, par exemple, la concentration des espaces de production et de production et de consommation des données. Ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de s'intéresser aux impacts politiques, aux impacts sociaux de la décorrélation entre les espaces de production de données et les espaces de consommation de données et le fait que dans les data centers, on voit finalement qu'il y a donc une concentration des espaces de production et de traitement des données, qu'il y a donc une dynamique de standardisation de ces processus de traitement et que de l'autre côté, donc il y a donc une séparation entre ces espaces de production et de traitement de données avec les espaces de production de données du côté donc des utilisateurs des écrans. C'est très flou comme question, mais là où je veux en venir, c'est d'aborder vraiment la question de cette décorrélation entre les espaces, la production de données par les personnes comme vous et moi, et puis le traitement de ces données dans des espaces concentrés. Quel est l'impact de cette séparation-là, l'impact de la concentration des données sur, eh bien, sur d'une part, peut-être les territoires eux-mêmes, les territoires où sont stockées ces données, et puis où sont implantés les data centers, et l'impact, après on pourra aborder la question de l'impact sur, eh bien, sur nous, le fait de ne pas avoir la main, de ne pas avoir les pouvoirs de décision sur le traitement de ces données. Alors, dans cette question de 3 km, je ne sais pas si Guillaume, on peut aborder justement au moins l'impact des data centers sur les territoires, là où ils sont implantés. Je ne sais pas si ça peut être une question intéressante à traiter maintenant par rapport à tes études sur le sujet.
Si, tout à fait. Alors, oui, alors je ne suis pas spécialiste, et d'ailleurs, Clément Marquet, je pense, maîtrise beaucoup mieux cet aspect du sujet que moi, puisque lui, je crois que je l'avais dit la dernière fois, il a fait une enquête sur la controverse à peine commune. Et en fait, les data centers, dans leur implantation sur les territoires, alors soit ils essayent de passer tout simplement relativement discrètement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et l'une des questions qui peut se jouer, c'est notamment celle de l'acceptabilité de la part de certaines populations pour les data centers en ville. Et donc, dans ce cadre-là, on se retrouve avec des espaces qui peuvent poser problème du point de vue des normes de les établissements classés Céveso, avec donc des quantités de matériaux industriels conséquentes. Et ça peut produire, donc, comme ça a été le cas à Pleine Commune, un certain nombre de questionnements. Mais souvent, donc voilà, c'est là où je voulais en venir aussi. Désolé, j'ai un petit peu de mal à démarrer moi aussi. C'est là où je voulais en venir. En fait, il y a une stratégie des data centers qui peut être mobilisée, qui vise à dire nous allons créer de l'emploi. Pendant un temps, en fait, il y a certaines, je crois que il y a une évolution. Je suis pas très au clair sur la question juridique là-dessus, mais au départ, je crois que la taxe professionnelle permettait de récupérer de l'argent chez les data centers et qu'il y a eu une transformation juridique qui fait que ça a été plus le cas. Ça a plus été le cas, et donc désormais, il a fallu aussi avoir un discours sur l'emploi, sachant que généralement, ça fonctionne pas très très bien, puisque un data center, c'est au maximum une cinquantaine de personnes, dont probablement les deux tiers en sous-traitance. Donc par rapport à ça, l'implantation sur le territoire, généralement, c'est surtout un territoire où on vient prendre de l'électricité, ce qui à son tour peut poser un problème conséquent, hein, puisque un data center, je l'avais dit aussi la dernière fois, consomme à peu près autant, ça dépend de la taille du data center bien sûr, mais si on est sur un data center de quelques dizaines de milliers de mètres carrés, surtout de machines, eh bien c'est à peu près autant que d'habitants, même si le rapport entre les deux n'est pas linéaire. Donc évidemment, là, on se retrouve avec des postes sources chez EDF qui peuvent être saturés. Ça a été le cas à Pleine Commune, hein, où voilà, les installations électriques se retrouvaient en quelque sorte remplies à plein par les data centers. Parce qu'il faut savoir qu'un data center ne consomme pas nécessairement toute la puissance électrique réservée. On peut réserver une certaine quantité de puissance, et ça veut dire que le fournisseur comme EDF par exemple garantit l'obligation de cette il a une obligation de fourniture, mais c'est pas pour autant que cette fourniture électrique est réellement desservie à chaque instant, puisqu'un data center, en fonction de son niveau de sécurisation, a besoin d'un certain nombre de redondances. Et donc typiquement, une bonne partie des data centers dits de tier 3 ou équivalent réservent le double de la puissance électrique dont ils ont besoin, ou quelque chose approchant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut saturer un territoire et qui pose beaucoup de problèmes. Quand vous avez un poste source qui est saturé, c'est un très gros billet qu'il faut mettre sur la table, hein, pour en construire un autre, et c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et quand on découvre qu'en effet, le data center consomme autant que toute la commune sur laquelle beaucoup d'autres industries sont implantées, évidemment, c'est le genre de choses qui peuvent poser souci. Mais je pense que l'une des questions centrales aussi pour comprendre l'implantation sur les territoires des data centers, c'est celle de la souveraineté des données. On a souvent le sentiment, hein, c'est la métaphore du cloud, que tout ça est dématérialisé très loin, donc on a compris que ça ne l'était pas. Mais je pense que, y compris d'un point de vue politique, ça ne l'est absolument pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont décidé les États-Unis avec le Cloud Act de 2018, ce cloud qui est un acronyme évidemment choisi à dessein, hein, pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, donc clarifying, donc pour en gros l'acte juridique, enfin comme on traduirait ça, le décret juridique en français, qui vise à clarifier les questions juridiques autour de l'utilisation de données outre-mer, mais aussi sur le territoire. Et donc c'est un texte qui contraint désormais les fournisseurs de services établis sur le territoire états-unien, par mandat ou par assignation, à fournir les données qui sont relatives aux communications électroniques stockées sur des serveurs. Et c'est très important que ces serveurs soient situés aux États-Unis ou dans des pays étrangers. Et donc là, c'est un texte de loi qui vise, en effet, à garantir une souveraineté états-unienne sur ces questions-là. Alors, du côté russe, la réaction a été assez rapide, hein, et en effet, il a été très rapidement instauré le fait que voilà, tous les services du cloud russe doivent se situer sur territoire russe pour empêcher justement ce type de contraintes produites par le gouvernement états-unien. Donc là, on voit bien que la territorialité du web, elle existe, hein, elle existe réellement. Non seulement c'est pas dématérialisé, mais en plus c'est pas dans un flottement géopolitique, hein, on est dans une véritable, même certains vont jusqu'à risquer le terme de guerre, au-delà des data centers, il y a d'ailleurs la question du réseau à l'échelle de la planète, qui rejoint directement cette question de l'interconnexion des data centers. Là, c'est Camille Morel qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur les câbles sous-marins à l'échelle de la planète. Alors, on entend parfois parler des satellites, mais donc déjà, première chose, hein, il faut bien avoir en tête, les satellites, c'est même pas 1% du trafic Internet. Tout fonctionne, 99% sont des câbles sous-marins. Il y a une très grande histoire des câbles sous-marins, hein, qui date au moins depuis le milieu du 19e siècle, où il s'agit tout d'abord d'interconnecter par télégraphie, hein, de produire une interconnexion globale à l'échelle de la planète. Je crois pas que j'avais pris cet exemple la dernière fois. Si c'est le cas, je suis désolé de radoter, mais dans les années 1830, si vous voulez envoyer un message depuis Londres, grande capitale coloniale, jusque par exemple à Bombay, grande capitale colonisée, eh bien vous écrivez votre lettre, ça va partir par ferry, contourner l'Afrique par le sud, en fonction des attaques de piraterie, etc. Vous pouvez espérer que votre lettre arrive à Bombay quelque chose comme 8 mois plus tard, avec le délai dû à la mousson, on ne peut pas trop faire partir de bateau. Ça veut dire que vous pouvez imaginer avoir une réponse à la lettre que vous avez envoyée à peu près 2 ans après avoir envoyé celle-ci. Là, on est dans les années 1830. Dans les années 1850, avec le développement du chemin de fer, il n'y a pas encore le percement du canal de Suez. Ça part en train, ça va se retrouver à traverser l'isthme de Suez par caravane. Vous pouvez espérer quelques mois pour que votre lettre arrive, et donc autant pour que ça arrive. Donc peut-être, allez, en 6 mois, vous pouvez envoyer une lettre et avoir une réponse. Dans les années 1870, avec le percement du canal de Suez, ça va s'accélérer encore. Et puis, avec les débuts du télégraphe, hein, on va se retrouver à avoir des temps de communication plus rapides encore. Même s'il y a des problèmes, il n'y a pas encore la télégraphie par duplex au départ qui permet de faire transiter 2 messages à la fois. Il y a les pays sur lesquels se trouvent les relais locaux qui monopolisent un peu la ligne. Donc, il va falloir mettre en place tout un tas de monopoles et de garanties pour que les choses s'accélèrent. Et à la fin du siècle, on est déjà dans quelque chose qui est plus rapide. Vous pouvez envoyer un télégramme le matin et espérer avoir la réponse dans la journée. Au départ, il faut plus ou moins une semaine, mais là, vous pouvez espérer avoir la réponse dans la journée. Je crois que c'est pour l'exposition, la Great Exhibition, ça doit être, je ne sais plus, je dis la date de mémoire, je crois que c'est 1924, mais si je dis des bêtises, ne me lapidez pas. Le roi George V en Angleterre va, pour montrer la puissance du réseau industriel anglais, va se faire envoyer à lui-même un câble, donc une communication télégraphique qu'il va recevoir 18 secondes plus tard. Donc là, on voit bien, en l'espace d'un siècle, des années 1830 aux années 1920, comment est-ce que la vitesse des transmissions à l'espace du globe s'est très largement accélérée. Et ça, c'est vraiment l'ouverture d'une course hein, au câblage des mers, puisque c'est par là que ça passe. Hein. C'est un enjeu pour les premiers câbles télégraphiques. D'ailleurs, ça ne marche pas très bien. Ça va être Lord Kelvin, celui des degrés Kelvin, hein, qui va être à la tête d'une commission au 19e siècle pour établir des processus sécurisés pour mettre en place des câbles sous-marins. Et aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que c'est quelque chose comme 800 000 km de câbles sous-marins qu'on a sur la Terre, avec des hubs absolument centraux, hein, qui font que là, il y a des enjeux de sécurité cruciaux. En Europe, par exemple, on a des choses qui arrivent, je crois que c'est vers le sud de l'Angleterre. Il y a toute la Méditerranée, le Maghreb et une partie du Moyen-Orient qui arrivent à Marseille dans des câbles. D'ailleurs, ça, c'est pas vraiment une étude de terrain, mais j'ai un ami qui a eu l'occasion de travailler et de visiter l'un de ces hubs. Il travaillait dans la fibre optique et il me racontait qu'il y a en effet hein, des systèmes de détection anti-incendie qui vont absorber toutes les molécules d'oxygène avec un gaz spécial. Ça se fait classiquement aussi dans les data centers, hein. Mais voilà, avec en cas de problème, un compte à rebours qui se met en place sont des endroits en effet extrêmement sécurisés, puisque si vous avez le hub du câblage à Marseille qui tombe, bah vous avez en gros toute l'Europe du Nord, hein, peut-être pas la Scandinavie, mais en tout cas France, une partie, y compris d'ailleurs de Espagne, Portugal, Allemagne, etc. Il y a une grande partie de la connectivité qui peut tomber. Donc là, on est dans des enjeux de sécurité très forts aussi avec ce câblage, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, hein, ces réseaux continuent à être tissés puisque le trafic ne cesse d'augmenter. Et comme le montre bien Camille Morel, il y a des grands enjeux de souveraineté, et non seulement de souveraineté, mais aussi militaire. Hein. En 2016, il y a eu un événement un peu sans précédent. Il y a un navire de câblage en mer Rouge qui s'est fait attaquer par des pirates. Il y a eu des tirs à l'arme automatique et bon, fort heureusement pour les occupants du navire attaqué, l'équipe de sécurité a réussi à repousser les assaillants. Mais voilà, ça a inauguré tout un tas de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut sécuriser ce câblage-là ? D'autant plus que là, évidemment, c'est le truc très médiatisé, une attaque de pirates, c'est très, très cinématographique. Mais dans les faits, le problème majeur, c'est pas les attaques terroristes, c'est pas la piraterie. Le problème majeur, c'est de se retrouver avec en fait des gens, par exemple au large du Vietnam, ça a été réalisé à plusieurs reprises, hein, donc des gens qui se retrouvent couper les câbles pour récupérer les matériaux pour les revendre ensuite, puisque vous avez de la fibre optique, vous avez du cuivre, vous avez du Kevlar, vous avez tout un tas de matériaux qui sont utilisés, qui peuvent se revendre au marché noir. Et donc voilà, au Vietnam, on a découvert que les pêcheurs, avec des moyens techniques en apparence assez rudimentaires, eh bien, sont en mesure de couper des câblages, et donc en effet la connectivité du Vietnam qui a été impactée à 80% de diminution, hein, je ne sais plus en quelle année c'est, ça doit être peut-être 2015, je vous dis ça de mémoire. Voilà. Donc là, on est dans une situation où il y a des risques non seulement terroristes, mais même tout simplement dans le marché global de coupure des interconnexions pour des raisons qui sont difficiles à maîtriser. Hein. On ne peut pas, vu ces centaines de milliers de câbles, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas mettre des soldats à chaque endroit de ces interconnexions.
Merci Guillaume, mais en effet, donc il y a cette notion de complexité, de l'ampleur du réseau qui devient donc impossible à contrôler dans son ensemble. Il y a cette question donc de la sécurité, de la résilience de tous ces câblages, comme tu en parlais, et puis la souveraineté, oui, et puis le piratage des données littéralement, évidemment, il fallait la faire. Mais à partir de là, est-ce que alors juste, j'ai envie de rebondir parce que tu parles de Camille Morel, donc qui a travaillé sur les câbles sous-marins, et j'avais envie de te parler de Lionel Morel qui a parlé aussi de la notion de réappropriation justement de ces câbles et de l'infrastructure, parce que là on a commencé l'émission en parlant des data centers et puis on part sur la souveraineté des réseaux, mais j'aborde ici la notion d'atterrissage aussi de Lionel Morel, de faire à Lionel Morel qui voulait faire atterrir les commun numérique, on avait parlé, notamment par la réappropriation des infrastructures, la réappropriation des réseaux et le fait d'essayer le fait que pour disposer d'une souveraineté sur l'infrastructure, sur les données, il était nécessaire de se réapproprier eh bien, les câbles en eux-mêmes, l'infrastructure en elle-même. Et donc, l'idée, c'est bien de se dire, est-ce que on poursuit à cette dynamique de continuer à tisser ce grand réseau mondial, ou comment peut-on faire pour en parallèle disposer peut-être d'infrastructures gérées plus localement comme des communs? Est-ce que c'est complètement incompatible? Est-ce que ça peut se faire en parallèle? Est-ce que c'est viable? Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume.
J'ai pas vraiment de réponse très claire à donner sur une question comme celle-ci, dans le sens où techniquement, je suis pas absolument certain de ce qui serait envisageable ou non. En l'état, ça m'évoque notamment une réflexion de George Orwell, qui, au lendemain de Hiroshima, s'interroge de façon très éclairée et surtout très avant-gardiste par rapport à ce qui se fera par la suite, à une époque où il y a deux principaux discours qui sont tenus au lendemain de l'explosion de Hiroshima et Nagasaki, un discours de la sidération. Hein, de la fascination, c'est Le Monde qui titre une révolution scientifique hein, au lendemain de l'explosion. Donc voilà, c'était une façon de le faire. L'un des seuls à s'ériger contre ça à l'époque, c'est Albert Camus. Mais dans les temps qui suivent, se pose la question en effet de la puissance de destruction de ces armes et notamment une peur qui se met en place, hein, la peur atomique. Avec, je crois que c'est une rumeur qui se répand dans les années 1900, ça doit être 1950 ou 60, je ne sais plus exactement, mais voilà, d'explosions qui risqueraient d'avoir lieu, de bombes qui auraient été lancées, etc. Bref, il y a une peur de l'explosion atomique avec l'idée que n'importe quel terroriste, pirate, abruti, hein, puisse en quelque sorte mettre fin à la civilisation humaine en son ensemble par l'utilisation de ces bombes. Et Orwell, il a un texte très éclairant qu'il écrit dès 1945 en disant, évidemment, il est pas fasciné par la prouesse scientifique de la chose, mais inversement, il n'est pas non plus sidéré par la puissance destructrice qui permettrait comme cela du jour au lendemain d'éradiquer toute la planète. Alors évidemment, il balaye pas ça d'un revers de la main, il dit c'est techniquement faisable, mais ce qui l'intéresse, c'est de dire est-ce que c'est vrai que n'importe quel ahuri dans son jardin peut faire une bombe qui détruira toute vie humaine sur Terre? Et là, il s'intéresse à une question qui a été travaillée en histoire des techniques, hein, qui est celle de l'emprise sur les territoires des systèmes techniques. C'est un historien états-unien qui s'appelle Thomas Hughes qui a travaillé là-dessus, il appelle ça les « large technical systems », traduit par macro-système technique en France, et c'est exactement ce sur quoi s'interroge Orwell en disant qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une bombe atomique? Une bombe atomique, c'est pas n'importe qui dans son jardin, une fois qu'il a le plan, qu'il peut la réaliser. En réalité, Hiroshima et Nagasaki, c'est un projet industriel qui a commencé dans les années 1920, avant même qu'on connaisse les théories permettant de faire exploser une bombe nucléaire, avant même que la recherche atomique soit avancée. En fait, c'est l'aménagement de la vallée du Tennessee pour la construction d'infrastructures électriques de très grande ampleur, des industries gigantesques qui ont été mises en place. Il a fallu par la suite mettre en place toutes les infrastructures pour raffiner l'uranium et le plutonium, produire les bombes. Déjà, il y avait les laboratoires, même s'il n'y a pas que les physiciens, il y avait aussi des physiciens dans l'histoire. Et puis ensuite, produire les bombes industriellement, même s'il n'y en avait que deux, il y en avait une troisième qui était prévue mais qui n'a pas été utilisée, qui n'était de toute façon pas vraiment opérationnelle. Mais donc voilà, il a fallu l'ensemble de ces chaînes de production, ce qui veut dire, c'est la thèse d'Orwell, hein, il dit, bah, qui peut produire une bombe atomique? Est-ce que c'est un individu esseulé, aussi fou soit-il, ou est-ce qu'il s'agit de gigantesques superpuissances technologiques et donc géopolitiques aussi, hein, du même coup? Et donc en 1945, Orwell anticipe déjà le fait que par la puissance géopolitique déportée de la bombe atomique, eh bien, les États-Unis, l'Europe et la Chine seront les trois principaux grands pôles de la géopolitique mondiale à la fin du XXe siècle. Donc c'est très visionnaire, hein, comme façon de voir les choses, et très contre-intuitif, d'autant plus qu'il insiste ensuite en disant eh bien, quel a été l'âge des révolutions démocratiques en Europe? Eh bien, l'âge des révolutions démocratiques en Europe, plus ou moins toutes choses égales par ailleurs, c'est la fin du XVIIIe siècle, à une époque où, nous dit Orwell, l'arme la plus puissante, bon, il y avait quelques batteries de canon, mais l'arme la plus puissante, en gros, qui était utilisée sur les champs de bataille, c'était le fusil. un fusil fait de métal et de bois qui était tout à fait appropriable, réparable individuellement. Donc il ne fait pas du tout ça pour faire une apologie des armes à feu, même si il a été journaliste, Orwell, hein, pendant la guerre d'Espagne, il est allé en Inde, il a couvert tout un tas d'événements géopolitiques à l'échelle de la planète, mais donc ce n'est pas une apologie des armes à feu, mais c'est plutôt pour dire, généralement, les régimes politiques se mettent en place à l'aune de la taille des techniques militaires qui sont nécessaires à leur maintien. Et donc, quand on est dans un univers où une partie de la population peut se réapproprier un certain nombre des infrastructures techniques, eh bien, probablement, il y aura davantage de démocratie, nous dit Orwell, que dans un univers où les infrastructures techniques ne sont absolument pas réappropriables à l'échelle individuelle ou même interindividuelle ou même communautaire. Donc ça, c'est une analogie peut-être un peu lointaine, mais qui me semble éclairer malgré tout ce qui se passe dans l'univers du data center et du câblage sous-marin à l'échelle de la planète. Est-ce qu'on est dans des technologies qui sont réappropriables individuellement? Et si, en effet, comme il semble que ce ne soit pas vraiment le cas à l'heure actuelle, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit sur les régimes politiques qui se développent aujourd'hui? C'est Christian Fauré, un analyste de ces transformations numériques. Il parle de passage du dataware au datawars, en disant, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des infrastructures de très grande ampleur d'un point de vue technique qui se mettent à peser géopolitiquement de façon très importante, les GAFAM notamment.
Merci Guillaume, c'est passionnant de comprendre cela ainsi avec justement cette analogie que tu fais. Non, c'est très très intéressant. Puis ça me fait penser aussi à justement à ce dont tu parles par rapport à la réappropriation de ces infrastructures et des réseaux et puis du pouvoir que l'on peut avoir dans la même idée. Juste une idée, c'est Alain Damasio par exemple qui écrivait dans Matériel libre, Vie libre, Zada Center et RedNet. Il avançait juste l'idée que si l'on souhaite parvenir à une forme de souveraineté et puis d'émancipation vis-à-vis des données, eh bien ça implique de se réapproprier, je cite, de se réapproprier toute cette chaîne logistique digitale aujourd'hui qui est intégralement privatisée et aliénée, aussi bien les câbles et la fibre que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les routeurs, tout autant que les centres de données et les data centers. Et puis il propose de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des data centers. Par exemple, ce serait une forme de réappropriation. Je ne sais pas si l'émergence de data center pourrait être usageable justement pour essayer de contrer ces formes d'hégémonie ou d'absence de pouvoir, en tout cas sur les infrastructures du numérique.
Moi, ce que vous dites là, ça évoque. C'est très intéressant parce que pour moi, ça renvoie à des choses qui me semblent très importantes dans l'histoire de la dynamique d'industrialisation et du capitalisme. C'est notamment dans un ouvrage qui s'appelle Le cauchemar de Don Quichotte, Mathieu Amiach et Julien Materne insistent beaucoup, et vous en parliez en introduction, sur cette décorrélation entre les espaces de production et les espaces de consommation. Et ça, je pense que c'est une dynamique vraiment globale de l'histoire industrielle, de petit à petit être en mesure de séparer les deux. Et ce qui est très important à saisir, c'est que plus on sépare, plus on met de la distance entre les lieux de production et les lieux de consommation, moins il y a possibilité de répartir le pouvoir politique, puisque le pouvoir technique, à un certain niveau, recouvre aussi une dimension politique. Là, je crois qu'on peut le voir de plein de façons dans l'histoire. Déjà, on peut... Bien avant les data centers, on peut s'intéresser par exemple aux grèves au tournant du 19e siècle, parce que les grèves à l'époque étaient généralement plus longues, plus dures que ce qui se fait aujourd'hui, pour une raison très simple, qui était que la quasi-totalité des gens dans le milieu ouvrier étaient aussi des gens qui cultivaient des lopins de terre, y compris en ville. Il y a d'ailleurs pendant longtemps, il y a des cultures en ville, même le vocabulaire odonymique, le nom des rues de Paris a conservé. Vous savez cela, la rue des Petits Champs, la rue des Cascades, c'est parce que pendant très longtemps, on ne pouvait pas opposer la ville, la cité et la campagne de ce point de vue-là, même si évidemment, là, c'est un peu trop, je tords trop le trait dans l'autre sens, mais donc il y a cette idée que les ouvriers, pendant très longtemps, en fait, sont aussi des agriculteurs. Et donc, de fait, quand vous avez une partie de votre revenu qui disparaît parce que, du point de vue du salariat, vous êtes en grève dans le cadre d'un rapport de force vis-à-vis de l'employeur, c'est moins grave si vous continuez à produire une bonne partie de ce qui est nécessaire à votre subsistance. À partir du moment où le salariat devient la seule la seule ressource que vous avez à votre disposition pour vous nourrir, eh bien de fait, une grève, hein, voilà, elle a pas les mêmes moyens pour obtenir les revendications. Elle peut pas durer aussi longtemps. Ça, c'est un peu ancien et de façon tout à fait contemporaine, hein, on le voit. Décorréler les espaces de production et de consommation, ça rend à un certain niveau impuissant. On peut écrire tous les tracts qu'on veut contre Microsoft ou contre je ne sais quelle entreprise ou sur Google, mais si pour les écrire, on se sert de traitements de texte édités par Microsoft et qu'on fait nos recherches sur Google, eh bien de fait, hein, on est assez peu en mesure, en réalité, de lutter contre l'emprise de ces géants. Et donc, il y a deux niveaux dans cette discussion sur la décorrélation. Il y a celle de l'apparence de la chose, c'est donc de l'impuissance qui est engendrée. Donc, c'est Franck Lepage qui ironise là-dessus dans une de ses conférences gesticulées, où il dit, quand on fait un sondage en France pour savoir combien il y a d'ouvriers, les gens, en moyenne, ils pensent 5%. En réalité, il y a 20% d'ouvriers en France. Enfin, ça varie, mais voilà, c'est un ordre d'idée. Et donc, ça montre bien, ici, on invisibilise les choses, ça donne l'impression qu'à un certain niveau, voilà, cette réalité matérielle n'existe plus. On a l'impression que nos prothèses électroniques, hein, elles n'ont pas de réalité matérielle parce qu'on ne voit pas tous les traitements qu'il y a derrière. Comment ça se retrouve dans la catégorie des déchets électroniques qui sont envoyés ensuite outre-mer, notamment dans des décharges en Afrique pour être plus ou moins brûlés, qu'il y ait des câbles de cuivre qui ne soient pas fort récupérés, le reste pollue joyeusement les territoires et l'atmosphère. Donc, il y a aussi une géopolitique de la pollution, hein, qui est rattaché au numérique. Mais ensuite, l'autre point qui me semble absolument central, c'est de voir jusqu'où il y a une logique d'un certain type de technique dans la possibilité qu'elle peut avoir de produire une recorrélation entre la consommation et la production. Donc il y a un niveau, j'ai envie de dire, de choix technique, et puis il y a un niveau ensuite qui est celui de la dynamique des techniques propres. Et il me semble que l'intérêt des réseaux de communication, c'est justement d'être déporté sur de très très grands territoires. Donc par rapport à ça, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à des instances décentralisées, d'avoir des formes de fédéralisme qui puissent fonctionner de cette façon-là, mais je pense qu'il faut aussi prendre au sérieux le fait qu'on n'est pas dans un univers qui est facilement relocalisable, à la différence par exemple de la boulangerie. On parle beaucoup des imprimantes 3D, nouveaux modèles de production, etc. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas grand-chose, hein, les imprimantes 3D. D'ailleurs, tout le baratin autour des imprimantes 3D qui pourraient se reproduire elles-mêmes, les imprimantes 3D, dans les faits, elles reproduisent une seule chose, elles reproduisent les espèces de jonctions en plastique qui leur permettent de tenir. Mais tout le matériel électronique qui sert à les produire, les imprimantes 3D ne sont absolument pas en mesure de les réaliser aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être produites par les imprimantes 3D à distance. Que ce soit, on peut reproduire des clés, on peut reproduire certaines pièces plastiques de certains dispositifs, ce genre de choses. Mais les boulangeries, il me semble qu'elles ont, malgré le fait qu'on réfléchisse et qu'il y ait une très forte industrialisation de la boulangerie, bien sûr, mais il y a quand même une nécessité d'avoir un maillage de boulangeries à l'échelle du territoire, parce que le pain, on ne peut pas l'imprimer en 3D à distance à l'heure actuelle, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais enfin bon, il y a des réflexions là-dessus. En tout cas, voilà, le pain, on ne peut pas l'imprimer à distance à partir d'un modèle qu'on récupérerait en ligne. On a besoin d'aller se fournir en pain, et donc on a encore en France un maillage de boulangerie qui est suffisamment important, même si une partie du réseau a déjà été industrialisée. Du point de vue des territoires, il y a des boulangeries, pas dans chaque village, mais voilà, dans un certain nombre d'endroits. Et par rapport à ça, on est dans une situation extrêmement différente de celle, par exemple, d'un moteur de recherche. Le moteur de recherche, par essence, c'est une logique qui a été étudiée en économie, hein, celle du winner takes all. Puisqu'on est ici dans non seulement des économies d'échelle, mais dans un univers qui va produire quelque chose où, en fait, plus vous aurez une empreinte gigantesque sur un territoire, plus votre efficacité technique sera forte. Donc, ce qui veut dire que nécessairement, hein, il y a une sorte de logique à l'émergence de quelque chose comme Google. On ne peut pas imaginer une infinité de moteurs de recherche qui soient individualisés. Chacun aurait son propre moteur de recherche, puisque, de fait, ça va à l'encontre, hein, en quelque sorte, de la logique du système. Donc, bien sûr, on peut essayer de voir émerger des alternatives, mais ça n'empêche qu'à un niveau global, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la question des dynamiques techniques. Donc je ne sais pas comment répondre définitivement à cette question, mais ça me semble en tout cas important de prendre en compte les deux niveaux de cette question.
D'accord, mais merci beaucoup. Ça me fait un peu sourire que vous parliez d'imprimantes 3D, parce que justement on revoyait avec les imprimantes 3D ces peurs émerger des gens qui imprimeraient des armes dans leur jardin pour aller tuer plein de gens. Et on voit toujours cette idée que, en fait, il y a une peur de Enfin, ça rejoint un peu ce que vous disiez avec George Orwell, il y a une peur assez démesurée à ce niveau-là, et on voit que la technique derrière est assez en retard et pas capable en fait de réalimenter ses fantasmes en fait.
Alors en fait, juste, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Moi, mon point, c'est l'une des choses que j'ai envie de défendre, c'est le fait que la technique, elle est constitutive de l'être humain. Il y a beaucoup de gens à Costec, au laboratoire, qui travaillent à partir de cette idée-là. Mais que, ça c'est un point que je défendrai plus personnellement, la technologie, c'est une rupture, un changement d'échelle dans l'activité humaine. On n'est plus dans la technique qui est une sorte de prolongement du corps, hein, comme c'est le cas avec un stylo, un marteau, même une souris d'ordinateur bien sûr, hein, ou la canne de l'aveugle, ou une raquette de tennis, bref, ce que vous voulez comme exemple. On n'est plus dans quelque chose qui est à l'échelle du corps. La technologie, c'est une rupture d'échelle par rapport à la dimension humaine. Rupture aussi bien vers le haut que vers le bas. Rupture vers le haut, puisqu'on est dans des dispositifs d'ampleur gigantesque, hein. On a parlé de la production de bombes atomiques, mais c'est la même chose pour les câblages sous-marins à l'échelle du globe. Mais rupture d'échelle aussi au niveau de l'infiniment petit, puisque voilà, on est aujourd'hui, on arrive à l'échelle quasiment nanométrique, hein, donc c'est d'où les discussions sur les ordinateurs quantiques, parce que la loi de Moore, d'ailleurs, qui n'est pas une loi, c'était une feuille de route industrielle pour inciter à des investissements dans l'univers, notamment états-unien. Mais donc la prétendue loi de Moore a atteint de toute façon les limites de l'une de ces formulations. On ne peut plus continuer à augmenter comme ça, puisqu'on ne peut plus miniaturiser au-delà d'un certain seuil, puisque les effets quantiques mettent à mal le fonctionnement classique des transistors au-delà d'un certain seuil de taille. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on a par exemple un microprocesseur qui a 4 GHz, ça veut dire 4 milliards d'opérations à la seconde, 4 milliards d'opérations logiques élémentaires à la seconde, aucun être humain ne peut envisager cela. Donc je pense qu'il y a une rupture très forte entre la mécanique et l'électronique, même s'il y a des liens bien sûr entre les deux, hein, mais une rupture d'échelle aussi, là, du côté de l'infiniment petit, où ce n'est plus accessible à l'être humain. Le meilleur programmeur sur Terre n'a pas accès à ce qui se passe dans sa machine. On est obligé de fonctionner avec des logs, avec des témoignages en quelque sorte des opérations que la machine va réaliser à une vitesse qui dépasse l'entendement humain. Et donc il me semble que cette rupture que produit la technologie, en fait la technique a toujours eu partie liée, hein, de près ou de loin aux conformations sociales. Il n'y a jamais eu de détermination directe, c'est pas un déterminisme technique que je défends, mais ça n'empêche que la technique a toujours eu partie liée dans l'histoire avec les relations sociales et au-delà de ça, la forme politique des systèmes. En tout cas, il y a eu des liens. Et ça a été réfléchi par beaucoup de gouvernants, hein. À la Renaissance, on s'intéresse à l'artillerie, c'est pas pour rien, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des liens très forts. Ensuite, au moment des guerres de religion, on s'intéresse beaucoup à l'imprimerie, parce qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut mettre à mal le pouvoir d'une religion comme le catholicisme, puisque la réforme protestante en passe très largement, hein, par l'imprimerie de Bible en langue vulgaire. Bref, c'est Calvin qui avait ce mot en disant que l'imprimerie est un don de Dieu pour répandre sa parole. Mais donc voilà, il y a eu toujours une histoire des liens entre technique et politique, mais au-delà de cela, un point très important est que ce passage, ce seuil, cette rupture qui s'opère quand on arrive en univers technologique, que ce soit vers le haut avec le gigantisme ou vers le bas avec l'infiniment petit et l'électronique, cette rupture qui s'opère, elle produit une accélération politique en quelque sorte aussi. C'est-à-dire que la technique a toujours été une sorte de lien, a toujours eu un lien très fort avec l'univers politique, la technologie va être une concentration extrêmement forte de puissance politique à tous les niveaux. Et par rapport à cela, hein, il me semble qu'il faut prendre très au sérieux le fait que les technologies contemporaines produisent cette forme de concentration qui devient accessible parfois, y compris à certains individus. Puisque toute chose égale par ailleurs, hein, la puissance destructrice d'une bombe atomique, c'est celle que le corps social a investi dans la production de celle-ci à un certain niveau, hein. Et c'est tout à fait scabreux comme parallèle, mais il me semble qu'il faut prendre ça au sérieux aussi, hein. Vous vous souvenez peut-être de cet affreux attentat, cet horrible attentat qui a eu lieu à Nice, où quelqu'un avec un camion a foncé sur la foule pendant un soir de festivité, eh bien, c'est malheureusement, il me semble, ça montre ce que cela veut dire, la technologie. Alors, cette puissance, elle n'est pas nécessairement destructrice, mais en tout cas, voilà, la technologie est accumulation de puissance. Et aux commandes d'un camion, eh bien, on a accès à une puissance destructrice considérable, qui est celle qui a été emmagasinée dans la machine.
Merci Guillaume, c'est passionnant d'aborder justement d'aller aussi loin dans cette question de technique versus la technologie, des ruptures apportées par la technologie. Et après, la question, c'est bien celle de notre autonomie vis-à-vis de ces technologies. C'est vrai que le camion, on peut toujours apprendre à le conduire, mais vis-à-vis de la production des données, c'est encore autre chose, c'est encore une autre étape pour ces technologies-là. Pour l'instant, c'est vrai que de quoi a-t-on besoin de plus de littératie numérique par rapport au traitement des données? Est-ce que c'est possible d'apprendre et de se réapproprier cette partie-là. Après, c'est encore une autre question, mais c'est passionnant, bien sûr, d'aborder ces questions de technologie. Je ne sais pas si on lance un petit morceau de musique pour eh bien méditer, digérer tout cela, si on veut, Baptiste.
Allons-y, ouais, allons-y.
Ouais. On va écouter cette semaine Give Me Sundays de Nursery, et c'est en licence CC by NCSA. À tout de suite.
Bonjour à tous, vous êtes toujours dans La Voie Libre et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Carnino, enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne en histoire des techniques. On se retrouve toujours pour cette émission sur les data centers. Et on a vu, là, on s'est beaucoup intéressé aux enjeux liés aux sites que représentent les data centers. Mais les data centers, ils sont également porteurs d'une idée, d'une organisation et d'une organisation qu'on pourrait qualifier de tout numérique. Cette idée que c'est que. Et cette idée que toutes les parties de notre vie pourraient être améliorées par le numérique. Et on peut également se poser la question sur un point particulier assez récent, qui est l'idée que le tout numérique dans le cadre de l'enseignement serait quelque chose de très intéressant, de très fonctionnel. Et vous avez parlé à ce sujet de la transition, de la continuité pédagogique, pardon. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Oui, alors continuité pédagogique, c'est la grande arnaque du moment, hein, à plusieurs niveaux. Quand même pour situer aussi, bon, c'est pas un cas seulement français, donc on ne va pas le rattacher qu'à ça, mais voilà, c'est quand même un cas où en ce moment il y a une controverse assez forte et il pourrait y avoir une assez importante mobilisation contre la LPPR, la loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche, qui va accentuer encore la précarité dans l'univers de la recherche. Donc un contexte, indépendamment de ce qu'on pense de la situation de la recherche à l'heure actuelle, du point de vue du gouvernement. Je pense que voilà, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être en ébullition, et le fait de voilà mettre toutes les universités à distance, ça c'est vraiment du point de vue de la dynamique sociale, ça brise absolument tout, hein, ça c'est flagrant. Mais sans faire de théorie du complot, même si je pense que ça fait partie de l'équation malgré tout aussi, hein, non pas la théorie du complot, mais les réflexions sur les capacités de démobilisation politique que produisent l'atomisation à distance. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser plus globalement à ce qu'est l'enseignement. Prétendument à distance. L'ironie de la chose, c'est pour ça que moi c'est quelque chose qui depuis longtemps à la fois me hérisse mais m'intéresse à penser aussi. Dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur en informatique. J'ai exercé quelques années avant de devenir historien à part entière et notamment l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'avoir ce revirement professionnel, c'est que je ne voulais pas travailler toute la journée devant un écran. J'avais besoin de contact, entre guillemets, humain, voilà, d'échanger avec des personnes dans des espaces comme ceux d'une salle de classe. C'était quelque chose qui me semblait être beaucoup plus souhaitable du point de vue de ma trajectoire professionnelle et personnelle. Et ironie de la chose, c'est que voilà, au bout du compte, on se retrouve à faire cours devant un écran, ça revient à peu près au même. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il faut insister sur plusieurs choses. Le premier point très fort, c'est l'inégalité. Le fait qu'on prétend résoudre un problème qui est celui de la transmission d'un virus par voilà, un enseignement à distance dans le cadre universitaire. Donc première chose, très grande inégalité par rapport à ça. On ne va pas avoir le temps de voir trop de statistiques là, mais en gros, hein, voilà, il y aurait à peu près une personne sur 10 qui trouverait plus ou moins son compte, mais pour la totalité, hein, voilà, ça ne fonctionne pas. On a des gens qui se retrouvent avec un sentiment de morcellement, un sentiment de démotivation, l'absence de repères, bref, toutes choses qui sont produites, hein, historiquement par le collectif. Il ne faut vraiment jamais négliger ça, hein, l'histoire humaine, c'est celle d'un être social. Donc, quand on est dans une salle de classe, on n'est pas juste dans la transmission d'un savoir. Sinon, depuis très longtemps, on aurait remplacé les salles de cours par des livres, hein, et les gens lisaient des livres, les gens auraient lu des livres, et ça aurait largement suffi. C'est bien qu'on a besoin d'autre chose. C'est comme tout ce discours un peu creux qui a émergé au début du développement d'Internet dans les années 90, où on disait « Enfin, tout le savoir du monde sera accessible, on pourra avoir accès à tout », ce qui est absolument ridicule. Depuis très longtemps, il y avait bien trop d'ouvrages dans les bibliothèques pour ce à quoi on pouvait avoir envie d'accéder. La différence, elle ne se situe pas là. Internet, c'est pas juste une très grande bibliothèque. De l'accès, on en avait déjà. Il se passe autre chose. Et justement, dans le cadre du cours, hein, c'est le collectif qui joue ça. Un cours, c'est pas seulement un prof qui va déverser des contenus, quand bien même on veut faire aujourd'hui cette prétendue classe inversée. Un cours, c'est aussi quelque chose où il y a du collectif, où il y a déjà une attention soutenue, partagée par tout un tas de gens, hein, même s'il y en a qui peuvent se regarder à filouter, à regarder des vidéos YouTube ou même à s'endormir pendant un cours. Évidemment, ça existe, hein. D'ailleurs, j'ai vu des étudiants capables de dormir dans des positions absolument invraisemblables en cours. Ça arrive toujours, et pas que pour des mauvaises raisons, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir en effet de véritable fatigue même. Mais donc, on est comme cela, on se retrouve à avoir ce mythe de la possibilité de déporter l'enseignement à distance qui, à mon sens, ne fonctionne vraiment pas du tout. Aussi bien du point de vue de l'attention, quand on fait une journée, ça m'est arrivé récemment de faire une journée de séminaire à distance, l'attention n'est pas du tout la même que quand on est dans une salle avec les gens. Il y a un dispositif d'attention conjointe et le rapport qu'on a, le fait d'être à la fois présent temporellement mais pas vraiment spatialement, ça produit aussi une forme de décorrélation. Là où, je crois que c'est le propre des technologies numériques, on peut être ailleurs temporellement alors que spatialement on est quelque part. C'est la même chose quand les gens consultent leur smartphone dans les transports en commun. On n'est plus dans un espace-temps partagé, on est dans un temps partagé avec certaines personnes et un espace avec d'autres, on peut décorréler en partie les deux. Et le cours à distance produit ça. Donc ça, à mon sens, c'est un très gros problème. Ça fait non seulement perte d'attention, perte d'intérêt, perte de sens et de collectif. Le sens, il est aussi produit par les étudiants à la machine à café, à la pause, qui disent « Ah ouais, t'as vu, ça c'était nul, j'ai rien compris. Ah si, moi j'ai compris ce machin, mais c'était nul quand même, t'as raison. Ou au contraire, tel élément était intéressant. Ah oui, mais ça me fait penser à tel truc dans un autre cours. » Le sens, il est aussi produit collectivement. Une salle d'examen, c'est pas juste quelqu'un qui remplit une feuille dans son coin. C'est aussi quelque chose qui se passe à un moment donné, un dispositif d'attention conjointe collectif. Donc ça, c'est un point très important. Et puis ensuite, il y a aussi une vague de libéralisation qui font que ce serait l'idéal de pouvoir, pour un ensemble de gouvernants, le processus de Lisbonne lancé dès la fin des années 90, début des années 2000, ce serait idéal de pouvoir imaginer, ça veut dire tout simplement privatiser les cours. C'est le grand rêve des MOOC, l'enseignement à distance, c'est de dire tout le monde pourra avoir accès aux meilleurs profs. Et donc, évidemment, on pourra faire payer des formations. Mais ce que montrent toutes les statistiques, c'est qu'en gros, c'est à peu près, alors c'est variable, mais pour les grands MOOC américains, on est à peu près à 10% des gens qui, au maximum, vont au bout quand ils se connectent suffisamment longtemps. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. L'amphithéâtre, historiquement, c'est un dispositif de production collective d'attention. Et on n'est pas du tout en mesure de faire ça avec des temporalités plus ou moins conjointes, mais malgré tout morcelées, et surtout des spatialités totalement morcelées. Donc ça, ça me semble vraiment très important. Et je ne sais pas bien quoi penser de ces confinements récents par rapport à ça d'un point de vue purement stratégique. C'est-à-dire qu'il existait depuis très longtemps un discours qui vantait l'enseignement à distance. Eh bien, peut-être qu'à un certain niveau, le confinement aura eu quelque chose, entre guillemets, de bon par rapport à ça. C'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, notamment, alors que pour une partie des étudiants, je pense que c'était quelque chose d'assez lointain qui ne méritait pas vraiment d'attention. Là, je crois qu'il y a vraiment une très grande partie de l'univers étudiant qui s'est confrontée à ce que voulait dire l'enseignement à distance. Et les échos que j'en ai à l'heure actuelle, c'est massivement, on n'en veut pas. On veut repartir en présentiel, on n'en peut plus, on est démotivé, c'est extrêmement difficile. Il y a des processus parfois d'allègement qui sont réfléchis par certains profs. Évidemment, le but, ce n'est pas de donner des diplômes au rabais, mais ça n'empêche, ce n'est pas la même chose. Enseigner et apprendre à distance, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Peut-être qu'il peut y avoir un effet positif de ces confinements qui est qu'on a vraiment testé ce que ça voulait dire passer en enseignement à distance. C'est quand même, dans l'ensemble, la perte est énorme, les gens n'en veulent pas. Mais inversement, si jamais cela devait durer longtemps et qu'on avait par exemple 3 années où l'enseignement à distance était d'une certaine façon banalisé, 3 années c'est quoi ? C'est le temps d'obtenir une licence ou un autre diplôme en 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y aurait des générations entières d'étudiants qui n'auraient été formés qu'à distance. Donc là, je crains à l'inverse qu'on puisse avoir une sorte de cliquet qui soit passé, peut-être pas d'irréversibilité, j'espère, mais en tout cas, quelque chose qui ferait que d'un seul coup, ça aurait été tellement banalisé que des générations étudiantes intégralement formées à distance, eh bien, on pourrait donc peut-être malheureusement imaginer que ça devienne, dans certains cas, la norme par la suite. Et ça, pour moi, on perdrait énormément, non seulement humainement, mais même tout simplement du point de vue de ce qu'est l'université, l'université qui vient quand même d'universel, c'est quelque chose de très important à avoir en tête, l'université qui a vocation à produire des citoyens et des citoyennes du monde. Et l'enseignement à distance, à mon sens, met cela en partie à mal.
Merci. Oui, je t'en prie, Baptiste.
Vas-y, je t'en prie, Audrey.
Je voulais juste vous remercier, Guillaume, pour ces réflexions vraiment passionnantes qui, pour moi, ouvrent sur une prochaine émission, bien sûr, sur cette potentielle solution qui n'est pas une solution de continuité pédagogique. J'ai envie aussi de vous renvoyer vers un article écrit par Stéphane sur azomé.fr à ce sujet, mais c'est vrai qu'on en discute, ce sont des discussions à Costec et ailleurs, sur justement les impacts de cette continuité pédagogique imposée et sur les impacts à long terme, justement sur ce qui pourrait devenir la norme ou pas, et sur ce que l'on souhaite décider, ce que l'on souhaite refuser ou non concernant les outils, les pratiques qui sont en train d'être mises en place. En effet, Guillaume, ce sont des réflexions passionnantes à ce sujet. Baptiste, écoute, je te laisse conclure si c'est ce que tu souhaitais faire avant que l'on s'interrompe.
Je pense que oui, c'est une belle conclusion. J'ai pas grand chose à rajouter. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre présence.
Merci à vous.
Et je souhaite une bonne journée à tous qui nous écoutaient.
Oui, merci. Merci, Baptiste. Et merci encore, Guillaume, pour ce deuxième round. Et puis, avec plaisir pour une prochaine fois encore. On n'a pas envie de s'arrêter, mais merci beaucoup pour cette fois-là. Et puis, écoutez, bonne journée à tous.